Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Sophie Noailles.
Soutien scolaire ou pas, en dehors de l'école, de nombreuses propositions sont faites aux parents pour aider leurs enfants, soit pour conserver un certain niveau et préparer les passages en classe supérieure, soit vraiment aider des enfants en difficulté, et difficulté notamment d'apprentissage ou de retard dans une matière. Alors comment bien discerner ce qu'il faut pour l'enfant? Est-ce que toutes les propositions de soutien scolaire se valent? N'est-ce pas un marché florissant pour parents en recherche de performance pour leurs enfants? Autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui dans Quête de sens avec mes invités. J'ai d'abord le plaisir d'accueillir Viane Roy. Bonjour Viane Roy.
Bonjour.
Vous êtes responsable communication de la Fondation pour l'école.
Oui, absolument.
C'est ça. Et j'ai le plaisir également d'accueillir Erwan Lehou, membre de l'Institut de recherche de la FSU, professeur syndicat chez les enseignants, pardon. Et vous avez écrit cet ouvrage l'année dernière, Payer pour réussir, le marché du soutien scolaire, un livre qui est paru aux éditions Sileps et qui nous dit bien des choses justement sur ce marché autour du soutien scolaire qui s'industrialise, enfin qui s'est déjà industrialisé, on le verra. Nous aurons également au téléphone Bernadette Dulin, auteure de Au secours mon enfant a des devoirs, paru aux éditions Hugo New Life. Bernadette Dulin est ancienne conseillère pédagogique, ancienne institutrice et créatrice du site happyparents.com. Et nous aurons une maman parent d'élève, Catherine Guillaumeau, qui a eu recours au soutien scolaire pour ses enfants, et notamment l'une de ses filles qui avait des difficultés. Diane Roy, c'est aujourd'hui un réflexe pour beaucoup de parents de se dire il faut absolument que mon enfant ait un soutien scolaire en plus de l'aide que je peux lui apporter par rapport à ses devoirs.
Alors oui, absolument, il y a beaucoup de parents qui ont recours au soutien scolaire, mais il y a surtout beaucoup de parents qui aimeraient pouvoir y avoir recours et qui ne peuvent pas. Nous, c'est un phénomène qu'on observe. Alors, on s'occupe, nous, d'écoles indépendantes, donc on est un peu en dehors de ce marché-là, mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une certaine angoisse de parents qui, soit pour rattraper des retards d'apprentissage, soit ne serait-ce que même pour rester à niveau, donc c'est quand même un signe inquiétant, font appel au soutien scolaire. Voilà. Mais ça semble pas être forcément la majorité des parents. Ce que nous, on ne savons pas, c'est quantifier tous ceux qui voudraient y avoir recours et qui ne peuvent pas le faire, pour des raisons financières principalement.
Financières notamment.
Oui, absolument.
Justement, Erwan Lehou, vous avez essayé de voir s'il y avait des recherches, des enquêtes, et puis finalement, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas tellement de chiffres donnés à ce niveau-là.
Non, c'est vrai qu'il existe très peu d'enquêtes. La première date des années 90. L'INSEE, ensuite, en 2002, a sorti une enquête, et c'est la dernière sur laquelle on peut véritablement s'appuyer. Depuis, il y a eu 2-3 enquêtes assez partielles qui ne permettent pas d'avoir des chiffres globaux. Alors, ce dont on peut s'apercevoir dans ces enquêtes, c'est que le soutien scolaire, il est massif. Un enfant sur 3, globalement, est concerné à un moment ou à un autre de sa scolarité,
par le recours. Justement, pour peut-être un passage en classe supérieure ou un coup de main à un moment donné, un petit coup de pouce.
Exactement, on a toutes les situations et ça se concentre souvent sur le lycée ou sur les classes à examen. Effectivement, c'est là qu'on va avoir.
À un moment donné, il va y avoir une échéance pour passer un examen ou une classe supérieure.
Exactement. Et puis ce qu'on constate aussi, et c'est là que ça devient aussi intéressant quand on se demande est-ce qu'il n'y a pas des parents qui voudraient avoir recours au soutien scolaire ou pas et qui ne peuvent pas, on constate que les enfants de cadre sont 3 fois plus nombreux à bénéficier de soutien scolaire marchand que les autres. Et inversement, si on s'intéresse au soutien scolaire gratuit, et je pense qu'il faudra qu'on revienne sur la différence entre les deux qui est assez fondamentale, on a 3 fois plus d'enfants d'ouvriers qui en bénéficient. Donc finalement, le ratio s'inverse. Ce qui paraît assez logique. Donc c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est finalement le soutien scolaire gratuit qui peut être donné par des associations, par les collectivités locales, par l'État ou au sein des écoles elles-mêmes. Est-ce que ça ne permet pas de compenser l'inégalité d'accès au soutien marchand? Et c'est là-dessus, moi, que j'ai essayé de travailler.
Ce soutien scolaire marchand, il s'est beaucoup développé ces dernières années. On voit beaucoup de publicité, y compris même dans le métro en ce moment, en affichage, ou même dans les journaux, de différentes écoles, instituts qui se montent et qui proposent leurs services.
Alors effectivement, le soutien scolaire marchand, il s'affiche de plus en plus, comme vous le faites remarquer. Mais finalement, c'est qu'une petite partie du soutien scolaire. Ça concerne 20%. Globalement, le soutien scolaire qui est déclaré, il concerne 20% du soutien scolaire marchand. On a encore 80% du soutien scolaire marchand qui s'effectue sans que ce soit déclaré au noir.
Voilà. Finalement, avec une personne qu'on va chercher, un étudiant, un professeur.
Voilà, par exemple. Et ce soutien scolaire-là, il a toujours existé. Finalement, on n'assiste plus à une petite métamorphose, à l'émergence d'un nouveau secteur bien organisé. Vous avez parlé d'une industrialisation pardon, du soutien scolaire. Et effectivement, on constate pour cette partie émergente, plutôt qu'à une massification de l'activité en tant que telle.
Mmh. Tout peut-être parce que c'est un secteur marchand et il faut payer de façon assez conséquente ce genre de service.
Évidemment. Évidemment, c'est une barrière. Et ça se voit aussi, je l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde les métiers des parents, ça se voit aussi si on regarde les revenus. On a plus le revenu des parents est important, plus le recours est massif. Rien de très étonnant, c'est un peu enfoncer une porte ouverte que de le rappeler. Mais en même temps, ça pose la question des inégalités qui sont induites par l'émergence de ce nouveau marché du soutien scolaire.
Mmh. Gadrois, c'est ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de pression sur les parents et qui s'inquiètent et qui s'angoissent pour leurs enfants. Et c'est bien légitime à un moment donné, mais de se dire il faut que mon enfant réussisse à tout prix. on n'accepte pas forcément la difficulté ou l'échec à un moment donné et il faut rattraper et il faut être au même niveau que les autres.
Oui, alors ce qui est surtout intéressant dans la question du soutien scolaire, c'est le signe de quoi ? C'est-à-dire que c'est surtout le signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans l'éducation aujourd'hui, dans l'éducation nationale. Donc, il y a certainement des besoins spécifiques qui doivent être pris en compte et qui ne le sont pas. Ça, c'est une première chose. On a des nouveaux profils d'élèves. On sait que l'éducation nationale n'a pas prévu de cursus spécifique pour accompagner ces enfants-là.
Mmh. Qui ont des difficultés particulières. On le verra notamment avec Catherine Guillaumeau tout à l'heure, hein, qui nous parlera de sa fille.
Voilà. Et puis, c'est le signe aussi qu'on a aujourd'hui une école publique qui se dégrade. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pas un discours particulièrement idéologique. Toutes les études le montrent. On a effectivement, comme disait monsieur, un système scolaire qui est le plus inégalitaire d'Europe. On est quand même les champions de l'OCDE, c'est l'OCDE qui dit ça. Donc pour moi, la massification du soutien scolaire, c'est d'abord le signe qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne et que les parents prennent les moyens qu'ils ont pour y remédier. Donc ça peut être effectivement une rustine, hein, ça peut être l'école privée, ça peut être le soutien scolaire, ça peut être des choses différentes. Voilà, et effectivement...
Parce que c'était de devoir, ce soutien est souvent absent justement du système scolaire.
Oui, alors après, il y a devoir et devoir. Il y avait effectivement... théoriquement, il n'y a pas de devoir le soir. Hein. Voilà. Maintenant, ça, c'est la théorie. En pratique, effectivement, des parents se saisissent du sujet parce que ils peuvent voir que leur enfant, soit des difficultés, il ne suit pas. Et s'ils peuvent le suivre, tant mieux. Soit, effectivement, ils confient ça à d'autres gens.
On va rejoindre au téléphone Bernadette Dulin. Bienvenue, Bernadette Dulin. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Je rappelle votre ouvrage, hein, Au secours, mon enfant a des devoirs, avec ce sous-titre « Comment l'aider sans cri, sans pleurs et sans reproches », paru aux éditions Hugo New Life. Et puis vous-même, vous avez fondé le site happyparent.com. Et puis vous savez de quoi vous parlez. Vous étiez ancienne institutrice, ancienne conseillère pédagogique. Bernadette Dulin, le soutien scolaire aujourd'hui, il est indispensable, il est vital pour beaucoup d'élèves, quel que soit le niveau.
Le soutien scolaire est important, il est vital. Ce qu'on a dans une relation entre un élève et soi peut pas être la même chose, la même qualité du même contenu qu'entre un élève, qu'entre une classe et puis un professeur. Donc le soutien scolaire, ça peut être bien plus vaste que répondre à la question scolaire. Et si s'adresse à des... Enfin, dans votre titre, il y a trois aspects. Le soutien scolaire, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça devrait être? Est-il efficace? Ben, il y a des conditions pour. Et puis, qu'est-ce que c'est que des élèves en difficulté? Un enfant a des difficultés scolaires. Ça, c'est ce qu'on aperçoit, c'est la symptomatique. Mais peut-être que cet enfant, tout simplement, depuis qu'il est tout petit, il n'entend pas très bien et ça n'a pas été détecté. On a tout de suite le réflexe aujourd'hui du psychologue ou de l'orthophoniste. Mais on n'a pas forcément le réflexe de dire « et si on commençait par aller faire vérifier ses yeux et ses oreilles hein ?» Donc on découvre un enfant qui a des difficultés qui aurait pu ne pas en avoir si ça avait été détecté à temps. Donc oui, le soutien scolaire peut être très efficace, peut être très important. et il est nécessaire pour les élèves qui ont des difficultés.
Et cette relation particulière, vous le disiez au début de votre intervention, c'est important parce qu'effectivement, dans une classe, un professeur ou un professeur des écoles ou un professeur de collège ou de lycée n'aura pas forcément le temps de s'intéresser, en tout cas de prendre le temps pour chaque élève.
Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Un enfant peut avoir un souci particulier, arriver le matin, son papa est gravement malade, ou il est au chômage depuis hier. Enfin, il y a des problématiques comme ça qui demandent. L'enfant devrait pouvoir poser tous ses problèmes, et c'est juste, c'est difficile. Ou alors, il faudrait prévoir un cadre, pourquoi pas, que l'école, par exemple, allez, on peut rêver d'une école pour demain. On pourrait rêver que l'école ne commence qu'à 9h et à 8h, il pourrait y avoir des adultes qui soient là pour écouter les enfants qui ont besoin de poser quelque chose d'important. Pourquoi pas ?
Pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé, alors, outre justement votre engagement, mais dans votre livre « Au secours, mon enfant a des devoirs », on voit combien de parents aujourd'hui quand même sont démunis pour accompagner leurs enfants.
Mais oui, ils sont démunis. J'ai pas bien compris l'objet de votre question, excusez-moi.
Par rapport à l'écriture de votre livre, avec ce titre, Au secours, mon enfant a des devoirs, et on voit dans les témoignages et dans les différentes situations que beaucoup de parents sont démunis par rapport à l'accompagnement de leurs enfants.
Oui, c'est vrai, on est démunis à deux niveaux. Le premier niveau, c'est est-ce que je suis un bon parent ? Est-ce que je vais permettre à mon enfant d'avoir un bel avenir ? Et puis, il y a aussi toute la question de l'éducation. Et puis aussi, où se situe mon enfant par rapport aux autres ? On est finalement dans une société qui est un peu en compétition.
On compare, on se compare aux autres.
Et oui, et on a peur que notre enfant n'ait pas sa place au soleil. Donc oui, il y a besoin de donner des repères. Je pense que quelques générations en arrière, on demandait conseil à l'enseignant. Aujourd'hui, on dirait que parents et enseignants, pour moi, dans le soutien scolaire, on ne peut pas faire réussir l'enfant s'il n'y a pas une équipe entre le papa ou la maman, voire les deux, l'enfant et nous-mêmes. C'est dans cette équipe et dans cette concertation, dans ce qui ramène de ce qui se passe à l'école, de ce que peut dire son orthophoniste ou son psy, parce qu'on va souvent mettre le doigt sur des choses que le psy dit justement, qu'on va faire transcender l'enfant rapidement, quoi. Il ne s'agit pas de faire du soutien scolaire pendant des années.
Diane Roy, par rapport à ce qui Bernadette Hulin.
Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que je vois qu'en effet, ce que vous dites, on rencontre tout à fait le même type de problématique, nous, dans les écoles indépendantes. C'est-à-dire que la proximité du corps professoral avec les familles, cette relation très privilégiée que peut avoir un professeur avec ses élèves, parce qu'une des forces des écoles indépendantes, c'est justement d'avoir très souvent des petits effectifs qui permettent d'avoir des pédagogies hyper individualisées. Tout ça concourt à la qualité de l'enseignement. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, nous, ce qu'on voit, c'est que dans les écoles indépendantes, quand vous êtes libre de la pédagogie, de l'adapter, que vous avez une classe à petit nombre, eh ben, il n'y a pas tellement besoin de soutien scolaire.
Voilà. Parce que tous les acteurs sont autour de l'enfant et travaillent ensemble.
Travaillent ensemble, individualisent les parcours, se font confiance.
Erwan, Lou, c'est pas le cas, évidemment, partout dans le système normal, j'allais dire.
Non, bien sûr. Alors moi, je voulais revenir, cela dit, sur les transformations de l'école depuis l'après-guerre. Globalement, qui, je crois, explique beaucoup de choses quant au développement du soutien scolaire. Et c'est pas tant une baisse du niveau ou des problèmes qui seraient plus grands, comme vous pouvez le sous-entendre, pardon, Diane Roy tout à l'heure. Moi, ce que j'observe plutôt, c'est que l'école s'est démocratisée depuis ces 50-60 dernières années. Et là où certains enfants échouaient, et ça ne posait pas trop de problèmes dans les années 50, 60, 70, parce que finalement, ils trouvaient un emploi à la sortie malgré tout, on a aujourd'hui, avec le chômage de masse qui s'est installé, un enjeu de la réussite scolaire qui est beaucoup plus important.
On le disait, il y a une angoisse quand même.
Ça va créer cette angoisse chez les enfants et surtout dans leur famille. En fait, l'angoisse derrière, c'est celle de l'accès à l'emploi qui est toujours prédominante quand on est avec des parents, que l'on discute avec eux. Finalement, à terme, c'est à ça qu'ils pensent. Et donc, effectivement, ils vont essayer de trouver tous les moyens pour pouvoir, malgré tout, forcer le destin scolaire de leurs enfants, si je puis le dire ainsi. Et ce qui est intéressant, c'est que les familles qui vont avoir recours aux soutiens scolaires, c'est pas toujours celles qui sont les plus démunies. Les familles les plus démunies, elles n'ont pas recours du tout, à la fois par manque de moyens financiers, mais aussi parce qu'elles ont une distance vis-à-vis de l'école qui est plus grande, et donc elles vont moins y penser, en général. En revanche, on a des classes populaires plutôt dominantes, donc le haut des classes populaires, et on a des classes moyennes qui, elles, sentent bien qu'il y a un risque de déclassement pour leurs enfants et qu'elles vont investir massivement. Voilà, qui vont investir massivement les moyens financiers dont ils disposent.
Allez, on va poursuivre, Erwan, on va poursuivre cette discussion autour du soutien scolaire avec ces questions que redisait Bernadette Dulin. Qu'est-ce qu'on entend par soutien scolaire, par efficace et par élève en difficulté? Restez bien avec nous. On se retrouve juste après cette première pause.
En quête de sens, 01 56 56 44 00.
1000 questions à la fois.
Bonjour, c'est Sophie de Villeneuve. Retrouvez-moi dans 1000 questions à la fois. Chaque semaine, je pose à un invité une question sur les écritures ou le contenu de la foi. Dans 1000 questions à la fois, on aborde sans tabou, mais avec respect, ce que dit l'Église, parce que croire est une affaire de cœur, mais aussi d'intelligence. 1000 questions à la fois, en partenariat avec le site croire.com.
1000 questions à la fois, avec Sophie de Villeneuve, tous les dimanches à 19h45 sur Radio Notre-Dame.
Monsieur et Madame Martin ont leur robinet qui fuit. Ils perdent 5 litres d'eau par heure, sachant qu'un litre d'eau coûte...
Monsieur, j'ai la solution.
Déjà ?
Ben oui, faut qu'ils appellent plombier.com.
Plombier.com ? Bravo Kevin, ça c'est un problème résolu.
Une fuite d'eau ? Plombier.com. Un évier bouché ? Plombier.com. Votre chaudière est en panne ? Plombier.com. Déplacement, une heure de main d'œuvre, petite fourniture est garantie à partir de 149 euros.
Plombier.com. Plombier.com.
La Bible, pas à pas.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne. Que dirais-tu de m'accompagner chaque semaine, pas à pas, sur le chemin de la Bible?
Ok, mais pour quoi faire?
Pour y ramasser des petits cailloux blancs. L'idée, c'est de s'arrêter à chaque symbole attaché à un personnage biblique.
Ah, comme la colombe de Noé ou le buisson ardent de Moïse.
Ou même les lions du prophète Daniel.
Et tu nous aideras ainsi à comprendre les Écritures.
C'est ça.
La Bible, pas à pas, avec Jocelyne et Étienne Tarnot, tous les dimanches à 9h30, sur Radio Notre-Dame. En quête de sens, Sophie Noailles.
Et on parle de soutien scolaire aujourd'hui dans Quête de sens, un enjeu important pour de nombreux parents. On en parle avec Erwan Lehoux, membre de l'Institut de recherche de la FSU, premier syndicat chez les enseignants et auteur de cet ouvrage « Payer pour réussir, point d'interrogation, le marché du soutien scolaire » qui était paru aux éditions Sileps en janvier 2018. Diane Roy, responsable de la communication de la Fondation pour l'école. Bernadette Dulin, auteur de « Au secours, mon enfant a des devoirs » qui est paru aux éditions Hugo New Life, ancienne conseillère pédagogique, institutrice et créatrice du site happyparents.com. Et nous allons accueillir Catherine Guillaumeau qui est au téléphone avec nous, qui est mariée, maman de 4 enfants et qui a eu recours aussi au soutien scolaire et notamment pour sa fille Marie. Catherine Guillaumeau, bienvenue.
Oui, bonjour.
Merci de votre témoignage. Je crois qu'avec Bernadette, vous vous connaissez, c'est ça ?
Oui, ça fait déjà un petit moment. Nous nous connaissons depuis 2005, lors de la fin du CE1 de notre fille Marie, qui était très dyslexique, dysorthographique, avec des troubles d'apprentissage certains. Et voilà, il s'est trouvé qu'en fin de CE1, notre fille nous laissait dans un état un peu de désarroi. Et on se sentait très très seul face à ce problème.
Il n'y avait pas forcément de solution et de proposition de faite par l'école.
Pas forcément, dans le sens où on sentait bien que cet enfant était un petit peu différent des autres. Ça c'était certain, c'était le retour des enseignants qui m'avaient effectivement dit qu'il n'était pas nécessaire de la faire redoubler son CE1, que les enfants avançaient chacun à leur rythme. Bien sûr, l'enseignante était vigilante par rapport à Marie. Là-dessus, ils ont été très très bien à l'école. Mais malgré tout, notre Marie, elle avait toujours 10 trains de retard par rapport aux autres. Et c'était ça qui était compliqué.
Elle avait vraiment du mal au niveau des apprentissages, finalement, en fait, c'est ça.
Ah oui, de très gros troubles de mémoire immédiate, impossible de retenir les choses, 25 fautes dans une dictée et 25 fautes le lundi, vous refaites la dictée tous les jours et le vendredi vous avez toujours 25 fautes, mais c'est pas les mêmes fautes. C'est très compliqué, vous avez 5 sommets à apprendre sur les sommets des montagnes françaises, impossible à apprendre. Donc vous passez une heure sur quelque chose qui peut être vu par des enfants entre guillemets classiques en 5 minutes.
Donc voilà. À un moment donné, vous vous êtes dit, non, c'est nous pour nous, on est dépassé à ce moment-là, on fait ce qu'on peut, mais on n'y arrive pas, forcément.
Voilà, on était face vraiment à une très grande solitude. En fin de CE1, l'institutrice m'a dit, écoutez, moi je ne la vois pas redoubler, donc je vous propose de faire des devoirs de vacances, et puis on verra en CE2 comment ça se passe. Et les devoirs de vacances, ça a été épouvantable. Ça a été... Là, je pense que notre mari, elle s'est fermée complètement. Pour vous donner un exemple, 1 plus 1, elle savait plus ce que c'était. Voilà, donc je pense que c'était vraiment presque psychologique. Et donc, en fin d'été, entre les deux années, j'ai eu la chance d'avoir au téléphone une de mes amies qui avait eu recours à Bernadette. Et là, donc, on est rentré en contact avec Bernadette. Et là, ça a été le début d'une longue et belle histoire, parce qu'on n'était plus tout seul, déjà. C'était essentiel. On n'était plus tout seul. Et là, on a redonné confiance à Marie. Ça a été vraiment ça. En accord, et ça je tiens vraiment à le dire, ça a été très très important, avec l'école,
qui se
trouvait être une école d'application, une école publique d'application. Et le directeur, on a donc mis en place toute une réunion entre directeur, psychologue scolaire, instituteur et Bernadette. Et là, nous avons mis en place une déscolarisation le lundi après-midi. Et durant toute cette année de CE2, Marie est allée voir Bernadette. Et pendant un an, Bernadette, essentiellement, lui a redonné confiance, a remis les bases. Voilà.
Mmh. C'est ce que vous disiez, Bernadette Dulin, tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'on entend aussi par élève en difficulté? Et au-delà de la matière scolaire, j'allais dire, il faut aller voir au-delà de ces résultats scolaires et de ces difficultés scolaires.
Oui, bien sûr, il faut aller voir... Au-delà, on accueille d'abord un être humain. Donc cet être humain, il est arrivé sur Terre parfait pour accomplir une mission de vie, si je peux dire. Et donc il a les ingrédients parfaits, les difficultés parfaites pour faire ce qu'il aura à faire. Mmh. Et donc l'important, c'est d'aller optimiser chaque enfant, d'aller voir où est son trésor, où est sa richesse, et puis de lui permettre de faire ce qu'il peut, tout ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il peut, lui permettre d'être responsable de lui, de lui rendre les rênes de sa vie en main.
De le rendre autonome.
Le rendre autonome, très important. Le rendre autonome, et puis il va faire ce qu'il peut, tout ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il peut. Et petit à petit, tout doucement, le ramener. Avec Marie, j'ai énormément joué. Elle était la pauvre. Il y avait une partie d'elle qui avait conscience ce qu'elle pourrait faire. Mais c'est comme si elle était une pelote de laine tout emmêlée. Et elle n'arrivait pas à trouver le bout pour défiler. Et donc, ça la mettait en rage. Elle avait une volonté, une détermination à y arriver. Avec dans le cadre du cours particulier, moi je demande toujours à la famille l'autorisation la première fois. De pas du tout aller expertiser l'enfant sur la partie scolaire.
Il est mesuré... Faire des tests pour parler simplement, en fait.
Pardon ?
Faire des tests.
Oui, je voulais pas faire de tests. Je voulais pas. Souvent, on m'apporte des bilans, etc. Moi, je veux le regarder avec un regard différent. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est de le connaître lui. Ce qui le motive, ce qui l'attriste, ce qui le révolte, ce qui l'angoisse, ce qui le porte. Et à partir de là, je vais avoir un geste pédagogique adapté. Hein. Et avec Marie, j'ai senti, je me souviens, la pauvre, pour accepter de se mettre à apprendre quelque chose de nouveau, elle avait une lutte parfois de 6 semaines. Ça pouvait durer un mois et demi. Donc je me suis dit, non, on va pas procéder comme ça. On commençait par jouer. C'était une petite fille qui était très rangée dans sa tête. Et qui était très dans le concret. Et elle avait besoin de défaire toute cette partie. C'était la peur, finalement, qui l'empêchait de réussir. Se confronter à ses difficultés, c'était trop éprouvant pour elle. Mmh. Et donc, par le jeu, eh bien...
Vous avez trouvé la clé.
Elle a trouvé la clé. Et je pense qu'on n'aurait pas réussi sans sa fabuleuse maman, qui avait une grande écoute. Il y avait beaucoup d'amour dans cette famille. Toute la famille était concernée par la difficulté de la petite sœur. C'était très touchant. Donc Marie se sentait aimée, elle se sentait soutenue. J'ai participé aux réunions qui étaient organisées par l'école. C'était remarquable tout ce qui était mis en jeu pour Marie. Et puis, petit à petit, on est parti de zéro. Hein. Vous entendiez ce que disait Catherine, 1 + 1, ça lui posait problème. Donc on a commencé par jouer avec les dés. On a compté les points sur les dés. Et à force de jouer et de jouer, on a fait des grands chiffres qui faisaient 80 cm de haut, avec une couleur pour les unités, une couleur pour les dizaines. J'ai sorti le Fanny Roller de mes enfants. Vous savez, cette espèce de trottinette à 4 roulettes pour pas qu'il y ait de soucis d'équilibre et que Marie puisse être concentrée sur les nombres.
Vous avez trouvé la bonne pédagogie adaptée à
voilà,
Marie.
On va justement, par ce premier protocole de coaching, je rentre dans le monde de l'enfant et je le suis. Et après, il n'y a plus qu'à courir. Et puis, elle est devenue un jour la reine des multiplications, la reine des divisions. Et petit à petit. Alors, il y a eu aussi un virage important, Catherine, tu te souviens, avec le choix de l'école. Il y a eu un moment...
On va y revenir à ce choix d'école. Hein. Je voudrais juste faire intervenir Erwan Lehoux, qui est avec nous en studio, Erwan Lehoux, mais ça, c'est vrai que c'est extraordinaire, cette histoire pour Marie, et heureusement. Mais c'est pas dans toutes les écoles le cas.
Non, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une école qui, effectivement, s'est réunie en équipe et a trouvé des solutions. Et le cas de Marie, je trouve qu'il reste exceptionnel à 2 titres. Déjà, les difficultés étaient très importantes, ce qui est assez rarement le cas, en fait, quand on regarde le profil des enfants qui, en général, ont recours à du soutien scolaire. Et en plus, il y a eu tout ce travail qui a été réalisé en équipe. La seule chose qui est vraiment dommage, c'est qu'on ne puisse pas réaliser ce travail-là au sein de l'école. Mm-hmm. On aurait suffisamment de personnel disponible dans les écoles pour pouvoir prendre en charge ce genre de difficultés. Mais comme je disais, en général, c'est des difficultés qui vont être plus légères qu'on va rencontrer dans les organismes de soutien scolaire.
Mais on voit combien des enfants peuvent être justement, j'allais dire entre guillemets, largués, et les parents aussi derrière, parce qu'on ne leur offre pas de solution. Ils n'ont pas forcément la chance de pouvoir justement avoir recours à des personnes comme Bernadette Dulin.
Et avant ça, parce que l'école parfois elle-même crée ces situations. C'est-à-dire que ce qui, à mon avis, doit être posé aussi comme question, c'est pas tant quelle solution une fois que le problème est arrivé, c'est comment faire en sorte que dans l'école, on empêche le problème de se créer. Et c'est vrai qu'avec des effectifs à plus de 30 en maternelle, avec la pression qui est mise sur les enfants dès qu'ils sont tout petits, parfois en termes de réussite, et je le disais tout à l'heure dans ce contexte du marché de l'emploi qui est tendu, qui crée de l'angoisse chez les parents, et très très vite, cette angoisse, elle arrive, c'est autant d'éléments qui vont parfois créer des problèmes qui n'auraient jamais existé si on pouvait enseigner dans d'autres conditions au sein de l'école.
Diane Roy, c'est une préoccupation évidemment majeure, ça, des parents.
Oui, absolument. C'est-à-dire que ce que je trouve très frappant dans l'exemple qu'on vient d'entendre, c'est qu'en réalité, l'enseignement académique, il vient en dernier lieu, là, dans l'exemple qu'on vient d'entendre. On parle surtout de retrouver une confiance en soi, de prendre l'enfant tel qu'il est, avec tous ses talents, de pas lui plaquer une méthode, voilà.
Ce qui fait son intégralité, d'abord.
C'est ce qui fait son intégralité, c'est absolument.
C'est une personne humaine.
Voilà. Et moi, quand j'entends cette maman parler de coopération, que tout le monde travaille ensemble, l'école, voilà, ça me frappe beaucoup. Et on voit bien que le savoir lui-même, il vient après. Et c'est sûr que si on pouvait développer ça dans toutes les écoles, ce serait un plus incroyable. Il faut... Aujourd'hui, c'est un peu en train de changer. Avant, on parlait du groupe classe, comme si une classe, c'était carrément un seul individu.
Voilà.
Oui, alors ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, on sait, par exemple, pour prendre le cas des 10, des enfants donc dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, on sait que c'est à peu près 6 à 8% d'une classe d'âge. Donc ça veut dire que dans chaque classe, vous avez au moins 2 enfants qui sont concernés par ce type de problématique. Donc pour un prof, quand il a 30 élèves, comme vous le disiez, dès la maternelle et jusqu'au bac, vous en avez 2 qui ont des difficultés de dyslexie, 1 qui va avoir des troubles, ce qu'on appelle TDAH, 1 qui est à haut potentiel. Mais quand il a 4, 5, 6 profils d'élèves différents, un seul cours, une seule pédagogie, pour lui ça devient extrêmement compliqué.
Bernadette Dulin, c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui. Et puis on parlait de cette pression qu'il y a sur les parents aujourd'hui. Alors au-delà de difficultés particulières comme Marie, on a l'impression qu'on a une pression énorme sur le dos des enfants dès le primaire, parce qu'il y a des enjeux de classe, de passer dans les classes supérieures, du choix du collège, etc., de réussir. Et puis comme le disait Erwan Lehoux tout à l'heure, la peur de ne pas réussir et de ne pas faire les bonnes écoles et de ne pas avoir de bons emplois.
Oui, c'est très juste. D'une part, on se dépêche. On a vite envie d'avoir un produit fini réussi. Mais en fait, on a tous son rythme. On a tous un rythme différent. Et je pense, et c'est ce que j'observe, plus le temps va, plus je donne du temps à mes élèves. Et même en groupe, j'ai parfois des petits groupes de 4, eh bien, si je vois qu'il y en a un qui a besoin de double de temps, il va prendre le double de son temps. Et plus au début, je vais lui donner de temps, et plus il va aller vite. C'est vraiment étrange, c'est paradoxal, mais c'est tellement juste. Plus il va avoir donné de temps, moins il ressent cette attente. Bon, plus on permet à son cerveau de faire la gymnastique qu'il a besoin de faire pour arriver au résultat, pour s'expliquer les choses.
Et vous arrivez à convaincre des parents qui voudraient avoir des résultats tout de suite?
Alors, je vais vous dire, je ne cherche pas à convaincre, parce qu'on va partir dans... On va perdre du temps à discuter. Je prends l'enfant, je le prends une heure à la fois, et puis l'enfant rentre et parle de ce qu'il a fait, il va à l'école, il a une meilleure note, et le parent commence à faire confiance. Vous voyez? Je m'y prends comme ça.
C'est aussi une relation de confiance qui doit s'établir.
Voilà. Et puis, j'explique aux parents. Je pense qu'il faut mettre beaucoup de mots sur les choses. Et il faut expliquer aux parents, il faut les rassurer. Vous voyez, je pense aussi que très souvent, les parents mettent un peu de temps, et c'est normal, je comprends, c'est pas une critique, c'est juste que j'observe. Les parents vont mettre du temps avant de venir prendre un cours particulier. Parfois, il se passe une année. Parfois, il se passe une deuxième année. Parfois, il s'en passe davantage.
Pour quelle raison, Bernadette? On ne veut pas voir la difficulté?
Il y a plein. Il y a déjà un critère financier.
Ouais.
Il y a aussi se dire, bon, bah, peut-être qu'avec sa maîtresse cette année, ça se passait moyen. L'année prochaine, ça ira mieux. Bon, et puis, dans la famille, il n'y a pas qu'un enfant. Et puis, il y a peut-être papa qui a des soucis avec son travail. Et puis, une chose, une autre. Et puis, on a peut-être... Je pense que c'est important aussi de dire que les parents, ils suivent la scolarité des enfants, de leurs enfants, avec leur propre histoire. Quelle histoire ils ont eue avec l'école? Dans les parents qu'on reçoit en cours particulier, il y a des parents qui ont eu une scolarité très chaotique. Et pour eux, oh là 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 là, l'école, c'est quelque chose de difficile. Ils se sentent impuissants à aider leurs enfants. Donc, ils viennent nous rencontrer. Mais il y a aussi les parents qui ont des situations brillantes, qui sont très pris, parce que ça va avec de hautes responsabilités, etc. Et donc, ils vont prendre un tuteur pour se rassurer. Et aussi parce que s'ils ont le temps le dimanche de s'occuper de leurs enfants, vont s'apercevoir, ils vont prendre peur, parce que son enfant qui n'arrive pas à faire une division, s'il n'arrive pas à faire un truc aussi simple que ça, mais comment il va arriver à faire prépa un jour, vous comprenez? Et puis finalement, on peut être brillant et pas pédagogue. La pédagogie, c'est un métier. Et être un homme d'affaires, c'en est un autre. Donc, ces gens-là vont venir nous consulter. Alors, après, on peut se poser une question. Est-ce que l'école, elle est faite... Est-ce que l'école est une fabrique à polytechniciens? Est-ce que tous les enfants doivent... Est-ce que la finalité, c'est... Mon Dieu, pourvu que mon enfant soit polytechnicien. Mon Dieu, heureusement que non.
Ou réussisse à faire une prépa avant d'être polytechnicien, en tout cas, voilà.
C'est ça. Et il faut bien se dire une chose. C'est que tous les enfants n'auraient pas envie de faire ce métier-là. Tous les enfants ne sont pas faits pour faire prépa. Et Dieu soit loué, on a besoin d'avoir tous les corps de métier pour que notre société soit équilibrée et heureuse.
Mmh. Alors ça, c'est encore un autre débat. Et c'est vrai que c'est des émissions qu'on a eues autour de l'orientation, du choix de
et
l'orientation.
Si vous permettez, quelque chose dont je voudrais parler, qui est vraiment, je pourrais dire, un des drames actuels, c'est que pour tous les enfants qui ne posent pas problème et qui n'ont pas recours au soutien scolaire, Ils sont brillants, c'est comme ça. Ils sont brillants. L'école ne leur pose pas de problème. Hop, premier de classe, et hop, de classe en classe, on arrive au... Bien sûr, on passe un bac scientifique, bien sûr, on fait prépa, bien sûr, on réussit une très grande école, bien sûr, on rentre dans une très grande entreprise, il y a 30 ans, ben, c'est le burn-out. C'est, mais qu'est-ce que je fais là? Mais je suis malheureux. Oui, d'accord, j'ai un bon salaire, mais je n'ai vraiment pas envie de faire ça plus longtemps. Et on a même des jeunes qui sont suicidaires. Donc, vraiment, je pense que ce qui est important... C'est de dire aux parents, émerveillez-vous de vos enfants, allez chercher le beau trésor qui est en lui. Parce que finalement, les parents aujourd'hui sont un petit peu dans une peur panique qui fait regarder leurs enfants comme des élèves. Non, les enfants sont plus que des élèves. Ils sont des
Ils sont d'abord des enfants et des adultes en devenir. Bernadette, Catherine, restez bien avec nous. Hein. On va faire une pause musicale et on se retrouve juste après.
Radio Notre-Dame.
La ronde des écoliers du monde, Youssoundour. On parle aujourd'hui de soutien scolaire. Dans Quête de sens, le soutien scolaire est-il efficace pour les élèves en difficulté? On en parle avec Erwan Lehou, Diane Roy, Bernadette Dulin et Catherine Guillaumeau, parents qui est avec nous aussi. Catherine Guillaumeau, pour terminer un petit peu et en savoir ce qui est plus sur ce qu'est devenu Marie aujourd'hui, mais elle a réussi à dépasser ses difficultés. Et puis, je pense qu'elle a passé brillamment son baccalauréat, c'est ça? Catherine Guillaumeau.
Vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Est-ce que vous avez entendu ma question?
Oui, oui, j'ai entendu la question. Oui, elle a passé son bac, donc elle a eu un collège tout à fait normal. Sixième et cinquième dans une section un petit peu spécialisée pour les enfants 10, donc ça lui a permis de reprendre complètement confiance en elle, de rattraper son retard scolaire parce qu'elle avait toujours 18 mois de retard quand même quand elle est rentrée en sixième. Voilà, donc elle a récupéré son retard et puis après elle a réintégré une quatrième tout à fait normale, un lycée qui s'est très bien passé, un bac qu'elle a réussi avec une mention et surtout un bac de français avec des notes incroyables, ce qui était quand même improbable. Et maintenant, notre Marie, elle est c'était son rêve depuis toujours. Elle est rentrée dans une école pour être psychologue, l'école Psychoprat à Lyon. Et elle est en troisième année et elle se destine à aider des enfants qui ont des troubles d'apprentissage.
Ah, voilà. Faire bénéficier les autres.
Leur faire gagner du temps.
C'est peut-être. ça. Redonner finalement ce qu'elle a reçu.
Voilà.
Très beau, bravo à elle.
C'est pas toujours simple pour elle, ça reste encore très compliqué au niveau de l'apprentissage. Elle a un tiers-temps, même en études supérieures. Mais elle se bat, c'est une battante. Et puis elle a toujours dans le coin de son cœur sa fée Bernadette.
Qui a aidé aussi vos autres enfants. Je pense que vous avez fait appel aussi au soutien scolaire pour vos autres enfants.
Tout à fait, alors d'une façon pas tout à fait aussi régulière, c'était plus ponctuel sur certaines difficultés purement scolaires, parce que les autres n'étaient pas très scolaires, mais n'avaient pas de problème d'apprentissage comme Marie.
Diane Roy, on voit combien l'enjeu justement de s'intéresser à l'enfant dans son environnement global, avec ses difficultés, avec sa personnalité avant tout, justement cet aspect scolaire, mais certains ne peuvent pas le faire.
Absolument, quand j'entends un parcours comme celui de Marie, évidemment ça fait rêver. On aimerait que toutes les familles qui ont des enfants qui rencontrent à des moments passagers plus ou moins longs des difficultés puissent bénéficier de ces services. Et c'est évident qu'aujourd'hui, les dispositifs fiscaux sont un peu au milieu du guet. C'est-à-dire qu'on est passé des déductions d'impôts au crédit d'impôt depuis quelques années. Mais on voit que ça ne permet pas à tous les gens qui en auraient besoin d'avoir recours au soutien scolaire. Donc la question, c'est pourquoi ? Donc aujourd'hui, on sait qu'on a 50% de la dépense qui est reversée en crédit d'impôt aux familles.
Donc le problème, c'est toujours 50% de leur poche.
Le problème, c'est qu'il reste toujours 55% de leur poche. Et donc ça veut dire qu'on va pas assez loin. Moi, on voit que l'État a compris que ça fait partie de sa mission que d'aider les parents dans l'éducation de leurs enfants en donnant un coup de pouce au soutien scolaire. Simplement, on va pas assez loin. On voit que ça ne fonctionne pas encore assez. Donc il faudrait que l'État puisse mettre en place des dispositifs fiscaux qui permettent à tout le monde de bénéficier de ces services, parce que il faut être aussi regarder le réel tel qu'il est. Aujourd'hui, toutes les écoles publiques ne peuvent pas répondre aux besoins d'accompagnement personnalisé de tous les enfants. Donc nous, on milite vraiment pour que on aille plus loin et penser des systèmes qui permettraient que les familles n'aient pas de trésorerie à avancer, puissent être remboursées de l'intégralité de leurs frais, pour que chaque enfant puisse développer l'ensemble de ses talents à son rythme, avec une pédagogie adaptée, sans que le problème financier soit un frein.
Parce que ça, évidemment, ça entretient cette inégalité.
Absolument.
Flagrante. Erwan Lehou, c'est ça, c'est la solution, c'est que le système public, j'allais dire, s'en empare.
Que
ces fameux crédits d'impôt, finalement, ou ces aides qui vont dans les poches d'instituts privés, aillent directement servent directement pour des associations ou le système public.
Moi, je serais beaucoup plus favorable à cette solution-là qu'à celle de généraliser le crédit d'impôt. Qui, à mon avis, quand bien même il prenait en charge 100% de la dépense, continuerait de créer des inégalités. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui pourraient, avec ce crédit d'impôt, avoir recours à un petit soutien scolaire, parce qu'il y a quand même une limite, on ne peut pas mettre un crédit d'impôt illimité, quel que soit le tarif. Et puis il y a certains organismes qui proposeraient quelque chose de plus complet, de plus grand, si les familles ajoutaient au bout. On aurait toujours, de toute façon, si on fait appel à du marchand, à du privé, on a toujours une inégalité qui finit par arriver, quand bien même on a la puissance publique qui prend en charge une partie de la dépense. Donc je serais plus favorable au fait que le système public reprenne cet argent qu'il dépense, à mon avis, de façon pas forcément très très utile, par exemple, en commençant par remettre en place les RASED qui existaient à l'époque, qui avaient fait une partie de leurs preuves. Les RASED, c'était notamment en maternelle, des personnels qui étaient là spécifiquement pour venir en aide aux enfants qui avaient des difficultés assez particulières. Je serais aussi plus favorable à ce qu'on reprenne cet argent pour transformer la formation des professeurs, pour leur permettre d'avoir une pédagogie qui serait plus adaptée. Et je pense notamment aux travaux de Bourdieu et Passeron, qui remontent aux années 70 et qu'on n'a toujours pas pris en compte, qui montrent qu'en fait, l'école, elle a plein d'attentes qui sont des attentes que tous les enfants ne peuvent pas parvenir à remplir du fait de leurs conditions sociales d'origine. On a certains enfants qui vont avoir une certaine avance et donc qui seront en phase avec ces attentes, et puis certains enfants issus de milieux populaires qui en général sont déjà en décalage par rapport aux attentes premières de l'école dès la maternelle.
Qui resteront à la traîne.
Et donc qui restent à la traîne, de fait. Sauf s'ils sont pris en charge de façon particulière. Ce qui est dommage, c'est qu'on pourrait transformer l'école de l'intérieur pour faire en sorte que ces attentes-là elles soient revues et qu'elles correspondent effectivement à tous les enfants et pas seulement à certains d'entre eux.
Bien normal.
Oui, alors je partage évidemment votre constat sur l'inégalité sociale. Maintenant, je crois qu'il faut aussi être pragmatique et certes, l'école se transforme. Maintenant, l'école, c'est une institution qui est longue à se transformer, comme toutes les administrations d'ailleurs. Donc on sait qu'à peu près, si on voulait changer l'école comme ça, un claquement de doigts, on sait qu'il faut à peu près 15 ans pour qu'une loi se mette véritablement en place. Donc nous, la position de la Fondation pour l'école, c'est de se dire... Qu'est-ce qu'on fait ? En attendant que l'école se réforme, et il faut qu'elle le fasse, et elle le fait, mais c'est long, comment nous, on peut agir pour qu'il n'y ait pas autant d'enfants dont les talents ne se développent pas ou soient gâchés par une école publique qui... Elle ne peut pas tout faire, l'école publique, aujourd'hui. Donc, c'est là, voilà. Donc nous, on décide d'agir. Et contrairement à ce que disait monsieur, moi, je pense que vraiment, aujourd'hui, l'éducation, elle est pas, elle doit pas être cantonnée à l'école publique. C'est un parcours collectif, on l'a bien entendu dans les témoignages qu'on vient d'avoir, entre eux, les acteurs publics, les acteurs privés, les parents, le scolaire, le périscolaire. Aujourd'hui, on voit bien que les limites bougent. Et c'est ça, pour moi, regarder le problème en face et prendre des solutions en attendant qu'on puisse avoir une école idéale. Certes, et souhaitons-nous ça. Voilà, il y a d'autres solutions. Il faut que le privé prenne sa part et puisse arriver à stimuler l'école, venir en aide aux enfants auxquels on ne peut pas venir en aide dans l'école publique, que ce soit par des écoles privées ou du soutien scolaire privé.
Bernadette Dulin, pour tous ces parents qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont des enfants qui sont en difficulté, quel que soit le niveau, hein, même dès le primaire ou en collège ou en lycée, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil ?
Vous savez, je pense que on parlait, et j'ai aimé ce qu'a dit madame, j'ai écouté avec attention ce qu'a dit monsieur et j'ai entendu des choses que j'ai beaucoup aimées aussi. Au-delà d'aider l'école à changer, je pense que c'est la société qu'on doit aussi faire grandir. Notre humanité doit grandir. Et je pense que la plus grande aide qu'on pourrait apporter aux parents, c'est de leur dire, on va se responsabiliser ensemble. Je vais, pour éclairer mon propos, vous partager un petit exercice que j'ai trouvé magnifique dans le livre des petites révolutions, qui a été écrit par Elsa Pincette, qui est sorti récemment. Elle pose une question. Es-tu heureux ? Si la question est oui, eh ben continue à faire ce que tu fais. Mais si la question est non, voilà une deuxième question. Veux-tu être heureux ? Alors, si la réponse est non, c'est ben continue ce que tu fais, continue à faire ce que tu fais. Mais si la réponse à veux-tu être heureux, c'est oui, alors change quelque chose. Et après, ce que j'aime beaucoup, c'est la politique du petit pas. Quelle est la toute petite, parce qu'en fait, ce que l'humain déteste, c'est le changement. Donc, quelle est la toute petite, toute minuscule petite chose que tu pourrais changer pour que déjà, il y ait un soulagement, pour que déjà, la vie de ton enfant se passe mieux. Et cette question, il faut la poser à son enfant, parce que l'enfant sait. Il sait là où ça ne va pas. Il peut préciser. Il faut prendre du temps, beaucoup de temps, pour écouter ses enfants parler. Et il y a un moment qui est privilégié, il y a deux moments privilégiés, trois même. Il y a le retour d'école, le moment où il sort de l'école, et là, pouf, tous ses soucis vont sortir comme ça. Il y a le moment, juste avant de s'endormir, où on ferme la porte et toutes les angoisses arrivent, l'enfant rappelle, et là, il va parler. Si on peut passer un petit temps avec son enfant, justement, avant de fermer la porte de la chambre le soir, en lui massant les pieds, par exemple, il va peut-être pouvoir poser ces choses-là. Et puis, j'ai oublié entre les deux, le moment du repas, où toute la famille
devrait être réunie
et se rassemble, et où chacun va poser sa journée, et où les difficultés de l'un va faire repenser à ses propres difficultés, et on va pouvoir les poser et puis avancer ensemble.
Je pense aussi à ce fameux proverbe africain, alors que tout le monde cite, mais de façon un petit peu comme ça, généralisée, Bernadette Dulin, pour élever un enfant, pour construire un enfant, c'est tout le village qui s'y met.
Oh, mais c'est beau. Oui, vous avez totalement raison. Et vous savez, j'ai eu la chance, avec mon époux et nos deux enfants, de vivre aux États-Unis.
Et dans le lotissement, j'ai découvert une loi qui rejoint votre propos. Dans le lotissement, nous étions tous responsables des enfants du lotissement. Pour vous donner un exemple très précis, chaque année, il y avait 5 familles qui posaient un décalque, c'était une main verte, sur la vitre de la porte d'entrée. Et ça voulait dire que si un enfant avait un tracas, quel qu'il soit, sur le chemin du retour de l'école, il pouvait rentrer comme ça, sans frapper, sans sonner, dans la maison, et il y aurait quelqu'un pour lui. Voyez ? Et je pense que c'est important. Dans une famille, on le voyait avec la famille Guillaumeau tout à l'heure, quand la petite Marie, c'était une branche de la famille. La petite Marie était en souffrance, ben l'arbre complet, toute la famille était concernée par Marie. Donc ça, c'est vraiment beau. Donc vous voyez, être tout simplement là, les uns pour les autres, écouter la personne en difficulté, parce que dans l'écoute vient la solution. On a tout en nous, il faut vraiment se le dire. On est dans une société gâtée et du coup on attend un peu tout de la société, de l'État, de ci, de ça. Et du coup on se met souvent, quand on a une difficulté, en victime. Eh bien non, on va se mettre acteur. On va chercher. Et finalement, vous savez, c'est dans les différences que vient la richesse et dans les difficultés qu'on apprend. Et c'est très important et c'est un exemple à donner aux enfants.
Erwan Lehou.
Oui, je voulais revenir sur cette citation. C'est tout le village qui s'y met, et si on généralise un peu, c'est toute la société qui s'y met. Et c'est bien parce que c'est un choix de société, à mon avis, quand on parle d'éducation, que je suis toujours un petit peu sceptique quand le privé prend une place trop importante. Et notamment quand le privé hors contrat ou quand des organismes s'imposent, mangent petit à petit sur les plates-bandes du public. Parce que ce privé-là
représente 0,5%
des écoles indépendantes. Oui, petit à petit, progressivement, et je parle pas que des écoles indépendantes.
Débat, l'objet d'une autre émission.
On a aussi voilà, le privé du soutien scolaire, etc.
Mais c'est vrai que ça fait
le privé
plus
en général,
oui.
Le privé en général, il pose cette question.
Parce qu'il y a une problématique, il y a un problème.
Alors, il montre qu'il y a un problème, mais par contre, il pose aussi la question de savoir qui est-ce qui fait les choix. Et dans ces cas-là, si c'est du privé, c'est plus des choix de société. Et on arrive à avoir, effectivement, alors peut-être une prise en compte des différences, une individualisation, etc. Mais cela dit, cette individualisation, ces différences, elles sortent de la classe. Finalement, on a presque une forme de ségrégation, on met les enfants différents ensemble, les autres, etc. On a déjà ce risque-là. Et puis, on a le risque aussi que les choix partent dans tout et n'importe quoi. Et là, j'ai par exemple un article
décalé pédagogique. Erwan Lehou, ça va faire l'objet d'une autre émission, parce que on n'est pas dans le débat public-privé.
Il y a aucune ségrégation dans nos écoles. Je vous invite vraiment à venir les visiter. Les enfants restent dans les classes. Ça,
si vous êtes d'accord, je vous réinvite pour une autre émission.
Absolument,
sur le public et le hors-contrat et les écoles indépendantes. En tout cas, vraiment merci Bernadette Dulin pour votre témoignage. Je rappelle votre livre « Au secours, mon enfant a des devoirs. Comment l'aider sans cri, sans pleurs et sans reproche » aux éditions Hugo New Life. Merci infiniment Catherine Guillaumeau pour votre témoignage et nous nous réjouissons pour Marie. Merci infiniment aussi Diane Roy. Je rappelle que vous êtes la responsable communication de la Fondation pour l'école.
Merci
Erwan Lehou. Je rappelle également votre livre « Payer pour réussir, le marché du soutien scolaire » aux éditions Sileps. On espère aussi vous avoir fait avancer, vous qui nous écoutez, et vous avoir rassuré en tant que parent pour aider vos enfants.